Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciats, bienvenue dans votre émission Page à Page, comme tous les jeudis de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, en ce jour pluvieux et plutôt mouvementé à cause des manifestations, eh bien je reçois Mouloud Akouche. Bonjour Mouloud.
Bonjour.
Qui a bravé le temps et les manifestations pour être là pour cette émission, où il va nous présenter son dernier roman, Le silence des géants, aux éditions de l'Archipel. On en parle avec lui dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous dire que samedi 5 décembre de 14h30 à 19h à la librairie de la Renaissance qui se situe 1 allée Marc Saint-Saëns, métro Basso-Cambo, eh bien il y aura le vernissage de l'exposition photo Apérissance. Il y aura également la présentation du programme du Festival du Livre Jeunesse qui se passera fin janvier à Saint-Aurens comme chaque année. Il y aura aussi une rencontre avec des auteurs et des illustrateurs jeunesse, justement, qui seront également présents à ce Festival du Livre Jeunesse, comme par exemple Rachel Corren-Blit, comme par exemple l'illustratrice Claire Garalon, qui était venue ici à Page nous présenter un de ses jolis livres. Donc, samedi 5 décembre, rendez-vous à la librairie de la Renaissance. Le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 61 44 16 32. Également, samedi 5 décembre, il s'en passe décidément ce samedi, de 10h à midi, à la librairie Éclat de Lire, une rencontre avec Denis Sigur pour son dernier recueil de nouvelles, Crise de foi, foi F-O-I, qu'il était venu nous présenter en octobre dernier, donc publié chez Edilivre à Paris. Donc, la librairie se situe à Cugnot, 12 places de l'Europe. Donc, c'est le matin de 10h à midi. L'entrée est libre, bien entendu. Ensuite, l'après-midi même du samedi 5 décembre, vous pouvez retrouver Denis Sigur de 15h à 17h à la librairie, dans une autre librairie, à la Préface, qui est à Colomiers, Allée du Rouergue, 35 et 37 Allée du Rouergue, toujours pour son recueil, donc Crise de foi, chez Edilivre. Ensuite, samedi 12 décembre à 14h, à Cultura de Balmagramont, une rencontre avec Jean-Baptiste Detieu, qui était venu nous parler le 19 novembre dernier de son livre « Le voyage de Jeanne ». Donc si vous voulez rencontrer cet auteur en chair et en os, n'hésitez pas à aller le voir à Cultura. Et puis, la fête du livre jeunesse Lily a lu, deuxième édition, aura lieu samedi 12 décembre également, donc à partir de 10h, mais c'est à Rabastens, ce n'est pas très loin de Toulouse, vous pouvez aller y faire un tour. C'est sous la halle, alors une rencontre privilégiée avec la littérature jeunesse, ouvert à tous et c'est gratuit. Et c'est une fête pour les enfants, bien sûr, petits et grands. De nombreux auteurs seront présents, hein, encore Rachel Corren-Blit, Annie Agopian, Manu Kos, Claire Garalon, l'illustratrice, et puis bien d'autres encore. Vous dire aussi que les éditions Bout de papier seront présentes sur cette petite fête de Lily a lu, et puis des expos, des lectures, et puis même des petits rabastinois qui auront participé au concours de dessin, des ateliers de bande dessinée, de dessin, et puis une projection de cinéma qui viendra clôturer cette belle journée. J'espère qu'elle ne sera pas pluvieuse comme aujourd'hui. Cette belle journée donc du samedi, pleine de couleurs et de belles histoires. Donc venez nombreux en famille. C'est à Rabastens.
Page à page, Claire Ambil.
Voilà, donc je me tourne vers mon invité Mouloud Akouche. Alors, tu étais venu nous présenter Rue des Absents et puis Balle perdue. Donc aujourd'hui, tu reviens avec Le silence des géants. Alors pour ceux qui, au cas où, ne connaîtraient pas Mouloud Akouche, on va parler un petit peu de toi. Donc tu es né à Montreuil.
Ouais.
Voilà, dans la banlieue parisienne. Tu es toulousain d'adoption. Tu es papa de deux garçons qui ont dû grandir depuis.
Oui.
Tu as exercé plein de métiers divers et variés, hein, que ce soit pion, directeur de colo, vendeur par téléphone, serveur, plongeur, enfin plein de choses.
Plongeur pas en Méditerranée. Hein.
Oui, non, plongeur dans le bac à vaisselle, ouais. Voilà. D'un restaurant, voilà, tout à fait. Mais bon, de toute façon, l'écriture a toujours été ton moteur. Au travers même.
Ouais, elle est là depuis très longtemps. Au départ, à travers la lecture, et puis bon, après.
Et après l'écriture.
L'écriture, mais elle a toujours été là. Ouais.
Et d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, tu écris depuis 1997.
Oui, en fait, la première publication, c'était 92.
Voilà.
C'était une nouvelle au Québec.
Dans une revue.
Dans une revue québécoise,
voilà.
Oui. Et
d'accord.
97, c'était par le Poulpe,
voilà,
la collection créée par Jean-Bernard Pouy,
aux
éditions Baleine.
Voilà, aux éditions Baleine. Puis après, donc, il y en a eu d'autres. Alors, comme je disais, donc, il y a eu plein de choses, des nouvelles, des pièces radiophoniques, des scénarios et donc des romans. Et donc, on a parlé donc, de Rue des Absents. Hein, c'était un polar que tu étais venu présenter ici en 2006, hein, qui était sorti en 2006.
Oui, oui. 2006, ouais.
Après Balles perdues en 2007.
2007, oui.
Il y a eu La Sirène Rousse en 2008.
Oui, La Sirène Rousse, oui, c'est...
Voilà. Et puis donc, te revoilà avec Le Silence des Géants aux éditions Archipel. Donc un nouveau roman alors qui pourrait se situer, bon, qui est pour adultes, hein, bien sûr, mais qui est aussi pour les grands ados, on va dire 16-17 ans.
Je crois que c'est un peu le thème de cette nouvelle collection créée par Hervé Millot. En fait, ils appellent ça, je crois, Cross Age, comme je sais pas parler
ils
anglais.
Ils appellent ça Archimystère. C'est la collection Archimystère.
C'est la collection Archimystère, mais je crois que c'est dans le genre Cross Age. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est transversal un peu, pour employer le mot à la mode. Mais beaucoup de libraires le mettent plutôt en rayon adulte.
Oui, ben oui, oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, bon, voilà, ça ne s'adresse pas aux petits-petits, enfin aux petits, voilà, collège, ça fait trop juste. Mais je pense qu'à partir du lycée, c'est tout à fait...
Oui, au niveau du lycée, oui.
Hein, je pense que c'est tout à fait... Alors, donc, ce livre, donc, aux éditions de l'Archipel, dans la collection, comme on vient de le dire, Archimystère, car effectivement, il est mystérieux. Il y a du mystère dans ce livre. Hein, ils ont bien choisi la collection. Ah. Hein, ça a été bien. Alors, c'est un roman, donc, de... 245 pages, hein, c'est un bon roman. Enfin, je veux dire, c'est pas un tout petit roman. Hein,
bon, je vais vérifier s'il y a vraiment 245
oui,
pages.
Oui, je vais vérifier. Tu peux me faire confiance, Mouloud. Il y a bien 245 pages. J'ai pas compté les remerciements. Hein, la dernière page, le point final de l'histoire, c'est 245 pages. Alors, un suspense garanti, hein, jusqu'aux dernières pages, avec une construction assez originale. En fait, les chapitres sont, alternés. Il y a des chapitres, pas des mêmes personnages. Enfin, il y a des chapitres qui racontent l'histoire, bon, on va l'expliquer, de Julie. Et puis, il y a des chapitres où c'est un autre personnage qui dévoile son histoire. Mais c'est une histoire où les personnages, forcément, se recoupent, hein, et se mélangent, d'ailleurs.
Mais j'aime bien travailler sur ce rythme-là.
Sur ce rythme d'alternance,
passer
de chapitres.
Passer d'un monde à l'autre, et puis à la fin, ça se rejoint. Et là, effectivement, je crois que c'est... les chapitres consacrés à Julie et Dan sont écrits à troisième personne. En fait, on les voit, le lecteur les regarde. Et par contre, les chapitres qui sont consacrés à l'autre auteur, Christophe Boissange, ils sont écrits à la première personne. C'est un petit peu son journal.
Oui, c'est un peu comme un journal où il raconte un peu les péripéties de sa vie, on va le voir. Donc, c'est peut-être aussi cette alternance de chapitres fait aussi que le suspense est maintenu jusqu'à la fin, justement.
Ah oui, parce qu'en fait, on se demande quel est le lien. Quoique sur celui-ci, on voit rapidement qu'il y a un lien, puisqu'il y a une quête, et
oui,
on sait que le personnage qui était la première personne fait partie de cette quête. Mais effectivement, on se demande comment ça va se terminer, quoi.
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman plein d'humanité, de tolérance et puis de mystère. Et puis de jeunesse aussi, hein, parce que la jeunesse a une part importante dedans. Et donc moi, je n'ai pas pu le finir. Je l'ai fini d'un seul coup. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pu fermer le livre que quand je l'ai lu d'une traite. Hein. Je n'ai pas pu le fermer avant d'avoir lu la dernière page. Hein,
c'est pas bon pour une nuit blanche, ça, alors.
Non, mais bon, après, on dort bien. Après, on est contente. Moi, j'étais très contente d'avoir vraiment dévoré ce livre jusqu'à la dernière page. Alors, on va faire un petit peu le résumé de l'histoire pour que les auditeurs sachent un peu de quoi on parle. Donc, c'est Julie, 21 ans, qui quitte le domicile de ses parents après avoir découvert un peu par hasard que son père, quand il était jeune, quand il était adolescent, au décours d'une soirée plus qu'arrosée, hein, on va dire, a laissé pour mort un jeune homme au bord de la route. Et donc, il s'avère que ce jeune homme n'est pas mort, mais qu'il devient amnésique, totalement amnésique, donc privé de son passé, de ses souvenirs, etc. Et donc, Julie se met en tête, hein, et se donne pour mission, pour quête, comme tu disais tout à l'heure, de retrouver cet homme, donc plus de 20 ans après, pour lui redonner son identité et son passé.
Oui, parce qu'entre-temps, il y a très peu de cas, d'amnésie totale comme ça, mais il y en a quelques-uns. Et là, en fait, on lui a donné un nouveau nom, un nouveau prénom. Et effectivement, il y a une rupture totale avec son passé. Et elle reçoit, en fait, son père, elle reçoit un courrier d'un des protagonistes de cette fameuse nuit arrosée. Et le père veut couper avec ce passé. Donc, et elle récupère le dossier.
Voilà, il jette le dossier.
Il jette le dossier à la poubelle, elle le récupère dans la poubelle.
Elle recolle
les morceaux du puzzle. En fait, le puzzle, c'est la mémoire de l'autre personnage.
Mais oui, tout à fait.
Et elle décide de lui rendre cette...
C'est une belle image, je trouve, de lui rendre son identité, sa vraie identité.
En ce moment, on en parle pas mal d'identité, d'ailleurs.
Oui, c'est le sujet actuel, un peu.
En ce moment, il y en a un qui veut nous la rendre.
Oui.
Ou plutôt nous l'enlever. Je sais pas.
Oui, ça dépend dans quel sens on le prend. Ouais. Et donc, dans cette aventure, elle rencontre donc des personnages hauts en couleur, puis des personnages attachants aussi, tels que Dan. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Dan, qui va l'aider vraiment jusqu'au bout à trouver cet homme pour lui rendre sa mémoire. Et puis, il y a d'autres personnages, hein, comme Fabienne, la compagne de Dan, qui est, je trouve, très compréhensive. Hein. C'est une femme très compréhensive, Fabienne.
C'est-à-dire ?
Mais très compréhensive, je veux dire. Voilà, elle voit son homme qui part avec une jeune fille de 21 ans. Elle ne va pas le voir pendant plusieurs semaines. Elle ne sait pas trop où il est. Mais voilà.
Elle laisse quelques SMS, mais je crois qu'elle n'est pas très jalouse. Ouais.
Oui, voilà, elle n'est pas jalouse déjà. Puis bon, oui. Je trouve quand même qu'elle est, elle est compréhensive. Enfin, dans le sens, elle est cool, quoi.
C'était pour la bonne cause.
Oui, oui, tout à fait. Et puis bon, il y en a d'autres, on va les voir ensemble. Alors moi, ce que j'aime bien, donc, dans ce livre, il y a plusieurs thèmes. Il y a le thème de l'amnésie, donc justement, là, tu en parlais, voilà, avec la perte d'identité, la perte de mémoire, de souvenirs, de passé, et puis même la perte de l'apprentissage, parce que quand il se réveille donc de son coma, enfin, on va dire, ce jeune homme amnésique, il ne sait plus lire, il ne sait plus écrire, il ne sait plus parler.
Oui, donc. Il connaît même plus sa langue. Et puis, en plus, le fait est, c'est que ce personnage-là étant un routard, on ne sait pas de quel pays il vient. Parce qu'il peut avoir appris plusieurs langues.
Et donc, tout à fait.
Donc, effectivement, il doit tout réapprendre.
Oui, il doit tout réapprendre.
C'est-à-dire, en fait, comme il dit, je mesure, je ne sais plus, 1m80 ou 1m82, mais je suis un bébé, quoi.
C'est un nourrisson.
Il refait les premiers pas, quoi.
Tout à fait. Ouais. Il doit faire tous les apprentissages que, justement, les enfants, les petits font, quoi, en fait. Hein, il repart à zéro. Donc,
il repart à zéro comme en maternelle.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, bon, j'ai bien aimé aussi dans ce roman, parce qu'il y a un petit clin d'œil aux années 80. Avec un personnage tripate, le punk. On a tous connu un tripate, peut-être, dans nos rencontrées ou croisées, un tripate dans notre... Enfin, pour tout du moins, ceux qui sont de cette génération qui ont connu les années 80.
Oui, c'est vrai que c'est un clin d'œil à cette période-là.
Il y a un petit clin d'œil, avec la route, justement, aussi, le côté routard, avec aussi les acides, hein, je veux dire, il y a ça aussi.
C'était
une période.
C'était une période, et il n'y a pas très longtemps, j'ai revu Ciao Pantin. Et c'est étrange parce qu'on est un peu dans ces périodes-là de Ciao Pantin. Et d'ailleurs, c'est étonnant, il suffit de regarder Ciao Pantin pour rien que regarder les bagnoles, les fringues et tout ça. Et on est vraiment passé à autre chose, là.
Ça a été une période bien particulière, mais bon, voilà, qui est derrière, quoi, derrière nous. Et donc aussi, ça parle aussi de la fragilité de la vie, hein, on va dire, et des expériences douloureuses, difficilement cicatrisables, comme par exemple, on va pas le dire, mais bon, Dan a quelque chose sur les épaules. Dan a subi quelque chose de douloureux dans sa vie.
C'est quelque chose qu'il a complètement mis KO. En plus, c'est un rugbyman, c'est quelqu'un d'assez costaud, etc. Et puis d'un seul coup, il a été un rugbyman qui était connu, etc. Bon, ça marchait très bien pour lui, quelqu'un de très dynamique. Et là, brusquement, il s'est passé quelque chose qui a entraîné une culpabilité phénoménale et qui a complètement brisé sa vie, qui a coupé sa vie en deux, quoi.
Mais il y a quand même de l'espoir, hein, dans cette histoire et dans ce roman. L'espoir qu'offre justement cette même vie. Il y a quand même... c'est pas tout noir.
Non, c'est pas tout noir, c'est un peu gris. Mais non, effectivement, dans les, c'est vrai qu'il y a une forme, il y a une forme de noirceur, mais rien que la quête, c'est positif, quoi.
Oui, voilà.
Parce que finalement, c'est ce qui est intéressant. Parce qu'il y a pas très longtemps, je lisais un très bon roman de Cormac McCarthy qui s'appelle La Route.
Ah bah justement, non, on vient encore à la route.
Et justement, dans La Route, c'est une espèce de noirceur phénoménale, mais en même temps, il y a une espèce de lumière. C'est un peu, on fonctionne un peu sur les deux.
Oui, bah de toute façon, voilà,
il y a toujours... Bah, il y a toujours des allers-retours.
Voilà, c'est un peu le symbole du yin et du yang.
Oui,
il y a toujours,
ouais.
Voilà, c'est un peu... Alors là, donc, c'est un peu la vie qui continue malgré tout, et donc l'avenir qui est quand même possible, qui en résulte, ouais. Donc, dans ce livre. Puis des rencontres que l'on peut faire au cours de, par exemple, comme de la mission que s'est fixée Julie, et des liens humains qui en découlent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans l'existence, c'est qu'il y a toujours peut-être une rencontre qui nous permet d'avancer. Ça peut être un enseignant, ça peut être un entraîneur de rugby, entraîneur de football. Ça peut être n'importe quelle personne, mais à un moment donné, on rencontre quelqu'un. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, on n'arrête pas de parler d'Albert Camus. Albert Camus, en fait, c'est parce qu'il a rencontré un instituteur. Il s'appelait Monsieur Germain. Donc, voilà.
Oui.
Donc, en fait, c'est je crois qu'on fonctionne pas mal avec les rencontres, quoi. On avance,
avec les rencontres. Puis des fois, des personnes que tout sépare, finalement,
qui
n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer, ils se rencontrent, et puis ça fait avancer la vie de chacun. Ouais. C'est ça aussi. Alors, dans les personnages, celui que j'ai bien aimé aussi, c'est Marcel, la mère de Dan. C'était une sacrée femme, Marcel.
Ouais, je pense que c'était une résistante, c'était une femme un peu comme ça, qui a un sacré vécu, et qui s'en laisse pas compter, quoi.
Oui, non, effectivement. Et puis donc il y en a plein d'autres, des personnages qui ont toute leur importance dans le livre, mais qui sont moins centraux que Julie, Dan et puis Christophe Bressange, bien sûr, l'amnésique, entre guillemets. Il y a Laura aussi, il y a Tripathe, comme je l'ai dit, il y a Étienne aussi, l'humaniste, je trouve, très humaniste, les personnages d'Étienne.
Qui en Italie.
Oui, j'ai bien aimé aussi ce personnage.
Qui offre ses bouquins et ses peintures à
Christophe Bressange. Et puis des lieux aussi. Alors, il y a la forêt de Bressange qui a donc donné justement ce nom, ce nouveau nom à cet amnésique, puisqu'il a plus de nom. Enfin, on ne sait pas son vrai nom. Enfin, on le sait après. Mmh. Mais bon, au départ, on ne sait pas son vrai nom. Donc, il s'appelle Bressange parce qu'on l'a trouvé dans la forêt de Bressange. Il y a aussi Digne-les-Bains, puisque ça part de là. Il y a la Suisse également. Il y a Besançon, Pontarlier. Alors là, Pontarlier, je ne savais même pas que ça existait.
Ah oui, si, ça existe.
Voilà. Ah, donc j'ai appris quelque chose, tu vois. Il y a l'Irlande aussi avec la fameuse légende de la chaussée des géants.
Oui.
Ça c'est.
Oui, et ça fait partie aussi de.
De l'histoire.
Oui, ça fait partie de l'histoire. Oui.
C'est la légende gaélique de l'affrontement des géants Finn MacCool et puis Benan Donner, c'est ça. Et donc qui donne son nom au site de la chaussée des géants, qui est classé quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui.
J'y suis jamais allé.
Non.
Si que par internet.
Ben oui, mais bon, donne envie d'y aller.
À Digne-les-Bains, j'y suis allé que par Internet aussi.
Ah oui, d'accord.
Je voyage beaucoup par Internet.
Eh ben écoute, on peut faire le tour du monde sur Internet. Et des lieux, donc il y a la Bretagne aussi, parce que donc ça se finit un petit peu en Bretagne, avec justement un restaurant qui porte le nom justement de la légende et de ce lieu d'Irlande, la chaussée des géants. Et puis le titre de ton livre d'ailleurs s'appelle Le silence des géants.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de géants dans ce livre.
Ouais.
Il y a beaucoup de géants. Alors, que pourrait-on dire encore de ce livre ? Donc, ce titre, Le silence des géants, tu l'as choisi par rapport à la légende ou...
Par rapport à la légende et puis par rapport aussi à ce rugbyman Dan, qui est un géant aussi.
Qui est un géant de
part
ça.
Qui est un géant et qui en même temps est un géant complètement brisé, quoi. C'est-à-dire que c'est un géant physiquement, mais à l'intérieur, il est complètement...
Et le silence, parce que c'est vrai qu'il a adopté une attitude un peu de repli.
De silence. Et en plus, et je crois que le secret de famille que vit Julie aussi, le père a décidé de vivre sur le silence. Il vit depuis un certain nombre d'années sur le silence. Et il y a aussi le silence de l'amnésique, parce qu'il y a une part de lui qui est silencieuse, qui ne lui répond jamais.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il ne saura jamais d'où il vient, justement, cette espèce d'identité... d'identité perdue. Mais entre-temps, ils se sont reconstitués une autre qui est sa vie.
Oui, sous l'identité de Christophe Bressange qu'on lui a donnée à la sortie de l'hôpital.
Et d'ailleurs, à la fin,
on ne sait pas s'il retrouve sa vraie identité ou s'il garde celle qu'on lui a donnée après l'accident, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est un très, très... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et puis, comme je dis, le suspense est vraiment garanti jusqu'à la dernière page. Et puis, il y a toutes ces liens qui se créent entre Dan et Julie, qui, au début, ce n'était pas évident, hein, parce que Dan regardait un peu cette jeune fille d'un air un peu... qu'est-ce que c'est que cette fille avec ses histoires. Et puis, finalement, il se crée une complicité.
C'est-à-dire qu'avec Dan, comme il a vécu une totale rupture, il est devenu, on peut dire le mot, il est devenu très misanthrope, en fait.
Oui.
Pourtant, il aide tout un tas de types qu'il a engagé pour remonter un village, etc.
Voilà, il se reconstruit un peu par rapport à une reconstruction.
Voilà, en même temps, il est détruit à l'intérieur, mais il veut reconstruire un village. Mm-hmm. Il donne du boulot
à des
mecs et des nanas qui sont un peu paumés. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'entre deux, il y a ces conflits, parce qu'en fait, il culpabilise, il ne se fait plus confiance à lui, donc il ne fait plus confiance aux autres.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc en tout cas, je recommande chaleureusement Le Silence des Géants, si vous voulez passer un début de nuit blanche, lisez-le vraiment, vous ne serez pas déçus, aux éditions de l'Archipel. Alors tu as d'autres projets, parce que Boudacouche, tu es tout le temps à faire plein de choses. Donc,
il faut travailler plus pour gagner plus.
Oui, c'est ce qu'on a entendu dire. Mais après, je ne débattrai pas sur ce sujet ici. Mais bon, donc tu as bien sûr un autre projet en cours. Hein. Ouais. Actuellement, tu es en train de préparer, de construire, entre guillemets, un docu-fiction sur la banlieue et plus précisément sur Montreuil. Donc, retour aux sources un peu pour toi.
Oui, c'est un éditeur, les éditions Inuit qui sont à Pau.
Tu as déjà édité chez eux.
Qui font un très, très bon boulot, qui m'ont proposé ce boulot. Au début, j'ai dit non. Parce que je me sentais pas, et puis finalement, en discutant, etc., je me suis lancé. Et comme c'est un éditeur qui suit ses auteurs, qui travaille, même si on a des doutes, etc.
Ils sont là, ils sont présents et ils t'aident.
José, l'éditrice, est toujours là, il y a toujours des coups de fil. On n'est pas paumé, quoi. Il y a toujours des coups de fil, ça va, t'y arrives. Si t'as un problème, tu me rappelles, etc. Donc il y a un suivi. Et donc ça va être un projet où il y aura des interventions extérieures d'auteurs.
Un photographe aussi, comme Gilles Delbos.
Voilà, Gilles Delbos, qui connaît très très bien la ville de Montreuil. Mais ça ne sera pas uniquement sur la ville de Montreuil, ce sera sur la banlieue en général.
D'une manière générale, sur la
périphérie, parce que j'aimerais bien... J'essaye d'avoir une espèce d'article sur la banlieue de Los Angeles.
Ah d'accord.
J'aimerais bien avoir peut-être un article sur une banlieue d'Afrique du Sud.
Ah oui, ouais,
parce que je trouve ça intéressant justement de en fait le
principe de la banlieue dans le monde entier.
Le principe de la périphérie.
De la périphérie dans le monde entier.
Comment voit-on la périphérie et que voit-on de la périphérie?
Tout à fait.
Parce que je crois qu'il y a des allers-retours.
Et
d'ailleurs, les ateliers Inuit, ils ont mis en ligne sur leur site, donc les éditions des ateliers Inuit. Inuit, IN, 8.
8, le loin. Chiffre 8.
Ils ont mis en fait le chantier, en fait c'est un peu le boulot du bouquin.
J'y suis allée, c'est pour ça.
On peut regarder le chantier.
J'ai regardé le chantier. Et j'ai bien aimé, il y a une phrase à un moment, certains moments oubliés ne vous oublient pas.
Oui.
C'est un
peu le titre provisoire, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a certains moments oubliés qui ne nous oublient pas. Quoi.
Donc c'est un livre qui veut offrir donc des regards sur la banlieue. Quoi, hein,
sur la banlieue et sur tout ce qui est périphérie, en fait.
Sur tout ce qui est, la périphérie. Et donc ça sera sorti en 2010, on ne sait pas
2010,
encore quand.
Normalement, c'est en novembre 2010.
D'ici un an, quoi.
Voilà,
d'ici un an,
oui.
D'accord. Et sinon, pour toi, quand je dis pour toi, tu as un autre projet de livre Le Silence des Géants,
je suis sur un autre roman. J'ai un recueil de nouvelles en cours aussi.
Ah, d'accord. Voilà.
Et puis, de temps en temps, je fais des petits billets là, sur Rue 89, un blog.
C'est en ligne, d'accord, sur Internet.
De temps en temps, je leur écris des billets, mais ça, c'est très ponctuel, puisque c'est une espèce de blog. Mais sinon, je suis reparti sur un roman. Et là, j'ai deux scénarios de court-métrage en cours. Là.
D'accord. Oui.
C'est une commande, là, donc pour... fait, c'est des courts-métrages de 6 minutes.
Et ça parle de...
Ça va être des braquages, en fait.
Ah oui,
des braquages un petit peu... Bon, je ne sais pas s'ils sont originaux, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est des braquages qui passent en Loire-Atlantique. Donc
d'accord.
C'est, théoriquement, donc, si ça doit se réaliser, ça se réalisera en Loire-Atlantique.
Et tu connais cette région, toi ?
Je connais un peu la région,
ouais, oui. D'accord. Ouais. Là, c'est pas que par Internet, tu y as déjà été.
Ah oui, là. Ouais. Non, c'est pas que par le net.
D'accord. Ouais. Mais en tout cas, plein de projets, quoi, Mouloud Akouche.
Bah, on est obligé. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est bien, je trouve. Donc, Le silence des géants pour l'heure, hein, que vous pouvez vous procurer partout, hein, dans toutes les bonnes
oui,
librairies.
Normalement, oui. Ouais.
Hein, voilà, Le silence des géants aux éditions de l'Archipel. Et puis donc, en 2010, bah, tu viendras nous en reparler, quoi, de
ouais.
ce livre sur la périphérie. Hein,
bah, je reviendrai, on est bien chez vous.
Ah ben voilà, ben merci. Et puis bon, ben moi la semaine prochaine, je recevrai Maxime Vivas, que tu connais
oui.
sûrement. Voilà pour son dernier livre qui s'appelle Victor Hugo à la Havane ou Deux siècles d'influence française à Cuba. Enfin, c'est un livre, c'est un peu, il retrace un peu les textes qu'a fait Victor Hugo par rapport aux femmes cubaines, etc.
Ah, je ne connaissais pas ça.
Tu ne connaissais pas ? C'est aux éditions de La Brochure. Mmh. Voilà, c'est un tout petit livre, hein. Mais c'est bon, sur Maxime Vivas, c'est quelqu'un de très. C'est un auteur engagé, hein,
oui,
comme beaucoup
oui.
d'ailleurs, hein, comme toi aussi, comme beaucoup que je reçois ici à page. Et donc, voilà, donc il viendra nous en parler. Il revient du Venezuela 2 jours avant, donc j'espère qu'il sera bien là jeudi prochain.
Ouais.
Avec le décalage horaire, etc. Et puis, je terminerai donc l'année 2009, le 17 décembre, avec Rachel Cohen-Blitt, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'auteur jeunesse, qui viendra nous présenter deux de ses derniers romans pour enfants aux éditions du Rouergue. Et après, bien sûr, ça reprendra, page à page reprendra, le 7 janvier prochain 2010. Mais je vous en reparlerai d'ici là. Il nous reste encore deux jeux dit. Et merci Mouloud d'être venu me parler de nous, parler donc de Le silence des géants. Et puis on se quitte alors avec, parce que dans ce livre, Dan aime beaucoup Bachung.
Oui, parce que ce livre-là, je l'ai écrit, en fait, j'avais Bachung en boucle, le dernier album de Bachung. Et,
Le pétrole.
Et quasiment quelques jours après avoir mis fin au bouquin. Quoi,
le point final.
Bachung mourait.
Donc, ah oui. Donc c'est vraiment un double hommage qu'on va lui rendre là.
Et c'est un très très, très très bel album.
Oui, ouais. Bleu Pétrole, donc de Bachung. Et là, on se quitte donc sur une des chansons de cet album. Voilà, pour terminer l'émission. Et voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mouloud.
Merci.
Adisiats.
Je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour, je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus.